France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir Juliette qui depuis plus de 30 ans maintenant nous accompagne en chanson avec son piano, ses musiciens et puis ses mots. Elle achève actuellement la tournée entamée l'an dernier avec son dernier album « J'aime pas la chanson ». Elle sera de retour à la salle Playel à Paris dans quelques jours. On parlera bien sûr avec elle de cette tournée, mais aussi de la France qu'elle a sillonnée de long en large depuis un an. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem, réalisée par Marie-Annick Rimbaud, avec la complicité de Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. L'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec une fois encore, vous l'avez entendu à la une, les gilets jaunes à la veille de l'acte 19 qui s'annonce délicat sur le plan du maintien de l'ordre. Et puis, comme tous les vendredis avant 19h, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, un reportage sur un bistrot itinérant qui sillonne les villages du Cher, dans lesquels il n'y a plus de café, succès garanti. À 19h20, au téléphone sonne à l'occasion de la journée du sommeil cette question: pourquoi dormons-nous de moins en moins et en quoi est-ce grave, docteur? Vous pouvez nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Juliette.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur France Inter. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de faire étape ici, alors que je crois que vous étiez en concert à Mérignac.
Hier soir. Absolument, ouais.
Vous serez à Vélizy-Villacoublay mardi, à Annonay en Ardèche vendredi prochain, en attendant donc le retour à la salle Playel, le 3 avril.
Et ensuite, il reste le 5 avril à Saint-Rémy-les-Chevreuses et le 6 à Rennes pour le Festival Mythos. Et après, t'es fini.
Et voilà, ça fera quoi? Une centaine de dates en tout?
On n'a pas réussi à faire 100, je crois qu'on a fait 98.
Oui, mais c'est pareil. C'est pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal, oui. En ces temps difficiles, c'est très très bien même.
Fatigant?
Un petit peu, sur une durée d'un an et trois mois, ça veut dire un bon rythme, on va dire. On a fait une moyenne de plusieurs concerts par semaine sur une année, quoi, en fait, en réalité. Donc, c'est pas mal.
Et vous faites ça comment? En bus?
En bus, en tourbus, oui.
Avec votre matériel,
avec
c'est ça?
Avec le matos, avec l'équipe, évidemment. Et voilà. Et puis, on va d'une ville à l'autre.
Comme les saltimbanques.
Exactement. Avec le Barnum.
La scène, ça reste le moment privilégié de ce métier, Juliette?
Non, c'est pour ça que je le fais uniquement. En fait, le reste, c'est comme ça. Après, voilà.
C'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau? C'est ce contact?
C'est plus que la cerise sur le gâteau. C'est ce dont je pourrais difficilement me passer. C'est l'essence de ce pourquoi je suis là. Enfin, j'en suis à peu près sûr. C'est ma mission divine, voyez. Le reste, après, écrire des chansons, c'est une chose qui est solitaire et secrète presque. Ça se fait à la maison, ça se fait dans le truc. Là, c'est un contact avec les gens et que j'ai du mal à quitter, mais il va bien falloir que je m'arrête un peu.
Des souvenirs particuliers de cette tournée? Des moments forts, vous pouvez nous dire?
Oui, il y en a plein, mais en fait, il y en a plein. Après, vous dire tel moment fort ou tel moment fort, il y en a eu plein. Enfin, il y a eu des merveilleux concerts, il y a eu des soirs. Voilà, je saurais pas. Il va falloir que je me pose et puis que je refasse le chemin inverse pour vous dire. Là, en l'occurrence, c'est souvent du bonheur quand même.
Alors, il y avait évidemment au programme avant tout le dernier album.
J'aime
pas la chanson. Je sais que vous en avez souvent parlé de ce titre-là, mais c'est vrai que à chaque fois on se demande pourquoi.
Le titre vient un peu de chez vous en fait, en réalité, puisque c'était Didier Varro. On dînait ensemble et on évoquait la possibilité que je refasse quelques émissions sur Inter. Il y avait un été où il y a eu des cartes blanches comme ça données à des artistes ou à des gens qui font pas de radio d'habitude. Et donc j'ai signé et puis je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse une émission? Moi j'aime pas la chanson. Mais il m'a dit t'as déjà le titre, voilà. Donc c'est parti en fait de l'émission de radio et puis après je me suis dit c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent en interview. J'écoute pas beaucoup de chansons, je suis pas une grande amatrice de chansons, enfin voilà, j'en connais quelques-unes et puis voilà, et c'est pas ce que j'écouterai en priorité.
Vous êtes pas une grande amatrice de chansons, mais enfin vous vos chansons c'est des pépites.
Oui, mais
ça vous le savez bien.
Oui, mais ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça que j'aime ça.
j'aime bien ce qu'on fait quand même.
Oui, mais j'aime bien ce que je fais, mais je veux dire, j'aime pas la chanson dans sa globalité. Je suis pas, il y a des gens qui sont fans de chansons vraiment, qui écoutent tout, qui sont très à l'écoute de tout. Je pense à Didier Varro par exemple, est un vrai lui, il aime la chanson, il y a pas de doute, il aime toutes les chansons et tout. Moi pas trop, non. Voilà, je suis plus difficile, je suis pas
donc pour vous
musicienne
définir.
Aussi,
musicienne, c'est
voilà,
ça.
Voilà, donc c'est moi, c'est tout de suite la musique qui va me toucher plutôt que le texte, plutôt que l'interprète, plutôt que ces choses-là. Donc mon oreille de musique musicienne m'empêche parfois, d'ailleurs, sans doute, de laisser aller à l'immédiateté de l'art, quoi, en fait. Parce que je vais décortiquer le truc tout de suite, je vais dire, oh, c'est pas terrible. Oh, il chante fou. Oui, ce genre de truc, quoi. Donc, ça peut être aussi un handicap, finalement.
Alors, il y a plein de chansons dans cet album, évidemment. Il y a J'aime pas la chanson. Il y a aussi Météo Marine. Là, c'est un clin d'œil à notre Marie-Pierre Planchon national.
Elle lui est même dédiée, en fait, par la force des choses, puisque c'est sa voix que j'entendais.
Même si maintenant elle fait la météo des terrestres.
La météo terrestre, oui. Mais enfin, bon, ça reste la météo.
Il y a des tas de chansons et on va en écouter une pour commencer. À carreaux.
D'accord.
Parmi mes signes distinctifs, ronde du cul, frisée du tif, il en est un qu'on ne peut rater. J'ai des lunettes sur le nez, chez les chanteuses c'est assez rare, et pour porter cet étendard, en vérité je vous le dis, y a que moi et Nana Mouskouri. Depuis que je suis petite, je suis à carreau. J'écris le roman des Miro, des quatre yeux, des intellos, des petits têtards à hublot. Mais que m'importe qu'on se gonce, moi mes lunettes, je les chausse. Comme on chausserait ses chaussures pour s'en aller à l'aventure. Comme on chausserait ses chaussures pour s'en aller à l'aventure. J'entends d'ici les rigolos, prédestinant ma libido, quand une rime assez bébête, on prête aux femmes à lunettes. Les miennes, je ne les ai ôtées que pour dormir et pour aimer. C'est ainsi que j'ai vu le loup dans le brouillard de l'amour flou. Depuis que je suis petite, je suis à carreau. J'écris le roman des Miro, des quatre yeux, des intellos, des petits têtards à hublot. Ceux qui ricanent sont des jaloux, moi mes lunettes, figurez-vous. Pour voir le monde comme dans un rêve, il suffit que je les enlève. Pour voir le monde comme dans un rêve, il suffit que je les enlève. Je n'ai pas cédé à la faiblesse d'aller brader mon droit d'aînesse contre une paire de lentilles et quelques bains de camomille. Déjà très myope, maintenant presbyte, pas étonnant qu'en pose élite, des douces liqueurs de la treille, mes vers soient en cul de bouteille. Depuis que je suis petite, je suis à carreaux. J'écris le roman des Miro, des quatre yeux, des intellos, des petits têtards à hublot. Et qu'on se moque, que m'importe, moi mes lunettes, je les porte. Comme un bijou sans joaillerie, nécessité fait coquetterie. Comme un bijou sans joaillerie, nécessité fait coquetterie. Mécréante que je suis, se fait pas d'idée sur le paradis. Quant à ma tombe, je m'en fous qu'on m'enterre un peu n'importe où. Mais s'il vous plaît, par précaution, même si je repose au Panthéon, ou mieux sous la plage de Sète, laissez-moi garder mes lunettes. Ou mieux sous la plage de Sète, laissez-moi garder mes lunettes.
À carreaux, Juliette. Mm-hmm. C'est étonnant quand on vous a à côté de soi en studio et que vous êtes en train d'écouter vos propres chansons, on a l'impression que vous les chantez dans votre tête. Je me trompe?
Non, c'est, c'est parce que j'étais en train d'écouter l'arrangement. Ça fait un an et demi qu'on tourne. Alors, ça, c'est marrant parce que je prends beaucoup plus de liberté aujourd'hui avec le tempo, avec le piano, avec des choses. C'est marrant parce que donc c'est ça que j'écoutais en fait. J'écoutais l'arrangement derrière, ce qui se passait, ce que j'étais en train de jouer, comment je le chantais, etc.
En tout cas, merci pour tous ceux qui portent des lunettes.
Oui, hein, n'est-ce pas?
Oui, c'était une très belle chanson.
Oui, il était temps.
Il était temps que. Ouais,
c'est vrai. Il y a aussi procrastination. Alors là, on se dit que c'est peut-être pas vraiment le genre de la maison, mais si, vous êtes...
Complètement. Bien sûr, oui, absolument. C'est même pour ça que j'ai écrit cette chanson, c'est que ça commençait à urger que je commence à écrire des chansons parce que on allait commencer justement à faire quelques dates de scène avant d'enregistrer l'album, donc il fallait quand même qu'il y ait des chansons. Et puis je voyais le temps passer parce que c'est toujours comme ça. Et puis je fais effectivement mes devoirs le dimanche soir pour le lundi matin, oui, bien sûr.
C'est-à-dire que quand vous savez que vous devez faire un album, vous vous y mettez, sinon vous n'êtes pas du genre à écrire un petit peu tout le temps, à garder des trucs en vous disant ça pourrait servir, non.
Non, pas du tout. C'est une chose à faire.
Et comment faites-vous justement quand vous décidez vraiment d'écrire une chanson, de composer une chanson, vous vous enfermez, vous ne faites plus que ça ?
En règle générale, oui. Je m'enferme et je fais plus que ça. Enfin, je m'enferme. Oui, en fait, en réalité, oui, je suis capable de passer beaucoup de temps sur un seul truc et de peaufiner les choses, surtout sur l'écriture. Et voilà, j'y passe du temps.
L'écriture, c'est-à-dire le texte.
Le texte,
la recherche du mot juste, c'est ça ?
Oui. Après, sur la musique, j'ai un autre travail aussi.
Mais vous commencez par le texte ?
Ça dépend. Non, c'est à peu près concomitant, en fait. Il arrive souvent que je commence un peu de texte et que je mette rapidement de la musique dessus, ce qui me donne une structure qui me permet d'aller plus vite pour écrire le texte après. Parce qu'une fois que vous êtes plus dans le vague de savoir que le couplet, il va faire tant de vers et tant de machin, parce qu'il y a déjà la musique qui vient le conditionner un petit peu, ça va plus vite.
Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un cahier ? Vous êtes à côté du piano ? Comment vous faites ?
Alors je suis avec des cahiers pleins et des crayons pour l'écriture du texte et sinon pour la musique je suis beaucoup sur ordinateur avec un clavier ce qui me permet d'enregistrer en fait rapidement, c'est-à-dire que une idée musicale plutôt que de la garder dans un coin de la tête en disant pourvu que je m'en souvienne demain, c'est plus simple de l'enregistrer et de pouvoir retravailler dessus, se dire voilà ça va bien ou réharmoniser les choses, etc.
Vous êtes du genre à réécrire la même chanson 50 fois puis à vous dire à un moment ça y est cette fois c'est la bonne?
Je l'écrirai pas 50 fois, mais quand je décide qu'elle est bonne, elle est bonne. Enfin, je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, je sais quand c'est fini, quoi. Ça, c'est sûr. Au bout d'un moment, j'arrête. Sinon, on n'en sort plus. Donc, j'ai tendance à...
Ce qui ne vous empêche pas, après, de prendre quelques libertés en concert, comme vous dites.
Oui, après, mais c'est plus de l'interprétation. Ça sera plus des choses un peu, de piano, de petits trucs comme ça, même d'effets de voix ou de choses comme ça, ou de quitter un peu la mélodie, le ronron de la mélodie. Mais sinon, non, une fois qu'elle est faite, je change pas grand chose.
Alors, il y a une particularité dans cet album, avec cet album, c'est qu'il est sorti, je crois, vous allez me confirmer ou pas, avec un premier disque, et qu'après, il est ressorti avec 4 titres supplémentaires.
Voilà.
Sur les reprises, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Il est sorti en fait en janvier de 2018 et en octobre de 2018, il est ressorti dans une édition augmentée, comme on dit. Alors c'est un petit peu aussi... En fait, ça part d'une demande toujours de la maison de disques qui dit voilà, pour remettre un petit peu de pression et de blabla autour et puis de promo et tout ça, on ressort une édition augmentée. Alors l'édition augmentée, ça peut être avec un duo, avec un titre inédit, avec ceci et cela. Et en fait, en réalité, je leur ai proposé ça, j'aurais dit, écoutez, moi je me mets en studio 2 jours et puis je vous enregistre 4 chansons piano-voix. En plus, là, j'ai convoqué personne. Et puis, mon idée rigolote, c'était de dire, voilà, je vais faire 4 chansons du répertoire. Enfin, 4 chansons du répertoire, 4 chansons connues, quoi. 4 chansons qui ont déjà été chantées par les autres, que les gens connaissent.
Alors, il y a Piaf, Bachelet, Julien Clerc, Lio.
Voilà, en plus, sur des chansons où on ne m'attend pas forcément. C'est sûr que Piaf, on se doute que je chante Piaf depuis toujours. Donc, voilà, on se doute que ça va venir. Mais
les brunes comptent pas pour des prunes de Lio. Voilà, c'est vrai que c'est plus inattendu.
Plus inattendu, mais en même temps,
c'est intéressant.
Ben oui, puis c'était rigolo parce que dire justement, j'aime pas la chanson, La Preuve. Voilà, parce que le petit album s'appelle La Preuve. Parce que justement, en fait, bien sûr que si, j'aime la chanson. Et en plus, je lui reconnais, comment dirais-je, cette vertu incroyable d'être à la fois, parfois, un art très exigeant, très, très intellectuel, très tout ce qu'on veut, et puis en même temps, excessivement populaire, avec des chansons qui peuvent sembler un peu bébêtes, un peu gnangnan, et qui sont sans doute les plus importantes de nos vies.
Il n'y a pas des petites chansons, ça dépend comment on les chante.
Exactement, non, même pas comment on les chante. Il n'y a pas de petites chansons. Il y a la chanson, elle va répondre à un moment, à un truc, elle va croiser votre vie à un moment, elle va faire la bande-son de ce moment-là, et cette chanson, vous aurez de l'affection pour elle toute votre vie, tant que vous avez de l'affection pour le moment qu'elle a accompagné, bien entendu. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on fait des chansons, populaires, et c'est comme ça que ça marque les gens, et que c'est effectivement un art très... très immédiat, très simple, très vaste. C'est pour ça que j'ai du mal à dire j'aime la chanson, parce que j'aime pas toutes les chansons.
Non, mais vous l'avez dit, c'est noté, c'est enregistré, on a la preuve cette fois-ci. Alors on va évidemment reparler de cet album, Juliette, de ces chansons qui en disent bien plus que vous ne voulez bien le concéder. Mais d'abord, on va passer à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hila. À la une cette semaine, l'acte 18 des Gilets jaunes qui a viré à l'émeute samedi dernier sur les Champs-Élysées.
Je voyais le Fouquet sans feu, les trucs, des gens qui dansaient, je comprenais plus rien. Ces gens qui dansent, là, ça brûle, les gens qui... On est où? On est à Paris. Tous les samedis, on se tient le ventre. Est-ce que ça va brûler? Est-ce que ça va pas brûler? Est-ce que... il va se passer quelque chose de grave? Est-ce que, bon, que matériel, mais tout le monde perd leur boulot, c'est ça qu'ils veulent pas comprendre.
Les Champs-Élysées transformés en champ de bataille samedi dernier, certains comprennent qu'on puisse en arriver à des actes violents.
Je condamne la violence, certes, mais je la comprends aussi. Parce que quand vous voyez la violence symbolique qui existe dans notre pays, on ne peut pas rester les bras croisés.
Mais là, certains soutiens s'éloignent.
Et j'étais de tout cœur au début avec les Gilets jaunes, mais là je ne partage plus, là, c'est plus possible.
Vitrines brisées, magasins pillés, banques incendiées, avec un drame évité de justesse dans un immeuble d'habitation. Et la plaque à la mémoire du policier Xavier Jugelé profanée, ses collègues sont écœurés.
Quand on en arrive à salir la mémoire d'un homme mort par un acte terroriste, d'un fonctionnaire de police, on n'a plus de valeur.
Le préfet de police de Paris limogé, mais pas le ministre de l'Intérieur, ce que déplore le député du Rassemblement National, Sébastien Chenu.
C'est de la faute du préfet, c'est de la faute de l'opposition, c'est de la faute des Gilets jaunes, c'est de la faute des Français, c'est de la faute des Russes, c'est de la faute des Martiens.
Mais pas la faute de Christophe Castaner, qui a eu bien du mal à faire oublier sa récente soirée en discothèque. Quant à Emmanuel Macron, il a dû écourter son week-end au ski à l'Assemblée, l'opposition s'en délecte.
Monsieur le Premier ministre, je ne reviendrai pas sur le président de la République qui a choisi de passer son week-end au ski au moment où Paris brûlait. Ni sur les soirées animées de votre ministre de l'Intérieur.
Monsieur, c'est pas ma bouteille.
Vous comprendrez que les Français soient atterrés.
Allons, monsieur.
Le président du groupe LR, Christian Jacob, boit du petit lait. Mais que dire du patron du PS, Olivier Faure, ancien compagnon de route de Christophe Castaner au Parti Socialiste, qui fait désormais dans la politique fiction.
Vous imaginez que, à l'heure où il était en boîte de nuit, il y a eu un attentat. Imaginez que on l'ait retrouvé à moitié sous.
Allons, monsieur.
Est-ce que vous avez pensé samedi soir à démissionner?
Non.
Est-ce que vous vous êtes fait engueuler par Emmanuel Macron?
Non, à aucun moment je me suis fait engueuler, comme vous dites. Mais j'aurais parfaitement compris que le président de la République m'engueule.
Fais-moi mal, Johnny. Moi, j'aime l'amour qui fait boum.
Et en plus, nos relations le permettent.
Il va lui faire mal.
Demain, acte 19 des Gilets jaunes. Pour la première fois, l'armée sera appelée en renfort. Pas de démission pour Christophe Castaner, pas de démission non plus pour le cardinal Barbarin.
Je peux confirmer que le Saint-Père n'a pas accepté la démission présentée par le cardinal Philippe Barbarin.
Démission refusée? Mais pourquoi donc? La réponse du cardinal Barbarin de retour de Rome.
Il m'a dit, mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision, c'est à toi.
Réaction outrée de François Deveau de l'association La Parole Libérée à la décision du pape François.
On a affaire à quelqu'un qui vraisemblablement est un traître, est un Judas.
On termine comme on avait commencé, avec des manifestations, mais celles-là se sont déroulées dans le calme samedi dernier à Paris et ailleurs. Marche pour le climat comme celle des plus jeunes la veille un peu partout en France.
Ce qu'il faut faire, c'est choisir entre l'économie et le climat, et s'ils continuent à faire passer l'économie avant, on va pas s'en sortir.
Si on protège pas la planète, il y aura plus d'humanité, donc forcément il faut faire quelque chose.
Et encore un grand merci à Céline Hila pour cette mise en onde. Juliette, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce que vous retenez de cette actualité de la semaine?
J'ai bien ri avec le « Fais-moi mal, Johnny » de... Ah. Évidemment, en plus Boris Vian, notre bien-aimé président, offre une ressemblance physique assez troublante avec Boris Vian.
C'est
je
vrai,
sais pas si vous avez remarqué.
Si, absolument.
C'est assez étonnant. Non, en règle générale, je trouve ça très consternant. En fait, voilà, c'est consternant. Les gens qui nous gouvernent sont consternants. les réponses apportées aux questions des Gilets jaunes depuis bientôt 20 semaines, ça va faire 20 demain, n'existent pas en réalité. Ils continuent de dire ces gens-là n'ont pas de réclamation, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais si, on le sait depuis le début, enfin. Est-ce que quelqu'un leur a répondu? Est-ce qu'il y a eu une réponse politique à un moment? La réponse politique, c'est d'amener l'armée maintenant dans les rues. Quoi qu'ils disent, ça reste de la communication, on est bien d'accord. Je me doute, parce que je suis quelqu'un de raisonnable, que l'armée va pas avoir l'ordre de tirer sur les manifestants dès qu'ils vont les voir arriver. Mais dans quel pays sommes-nous pour que le maintien de l'ordre public soit confié à l'armée, dont ce n'est pas la mission? Enfin, moi, ça me consterne, hein, là. Même si c'est une opération de com, même si c'est pas suivi des faits, tout ça, on sait bien, on se doute, c'est consternant. C'est absolument consternant. Et la réaction, moi, il y a une chose qui m'amuse aussi beaucoup, c'est que nous fêtons tous les ans le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, quand on l'a prise, il y avait plus personne dedans. C'était plus une prison. Il y avait encore des armes, mais il y avait plus de prisonniers. On a pris un symbole. Alors, un symbole, symbole et demi, quand même. Je ne vais pas comparer le Fouquet's à la prise de la Bastille. Bien entendu. Mais la violence dans la rue, on sait ce que c'est, on l'a fait tous les 14 juillet. Les changements, parfois, s'accompagnent de choses très désagréables. C'est comme ça. Et est-ce qu'il faut tout foutre par terre en disant jeter l'eau du bain avec le bébé, justement, en disant, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au départ? Mais qui est la même chose qui concerne les victimes du prêtre pédophile protégé par Barbarin, qui concerne aussi les gens qui vont défiler pour le climat? Nous vivons dans un système de merde qui s'appelle le capitalisme, et tant qu'on n'en aura pas fini avec ça, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution, aucun problème ne sera réglé. Point.
Alors Juliette, il y a quelque chose de surprenant chez vous, c'est prise de position politique, hein, vous êtes toujours bien à gauche, d'après ce que je comprends. Puis alors, j'ai vu quelque part que... Au départ, vous aviez voulu rentrer dans la police. Alors, c'est pas forcément contradictoire, vous allez me dire,
mais pas du tout.
C'est votre côté j'aime la loi et l'ordre.
Alors, en fait, je voulais rentrer dans la police. Oui, enfin, ça a été un truc qui m'a pas duré très très longtemps. Je pense qu'il y a une vocation que j'aurais pu avoir qui m'aurait tenu plus, c'est le droit et notamment le droit pénal. Bon, je me voyais
avocate.
Bien avocate, etc. Ben, oui, parce que c'est intéressant la position d'un avocat. Un avocat, c'est justement quelqu'un qui va aussi rentrer dans la réflexion de qui a commis un délit. Ou ne l'a pas commis, du reste, et va trouver le chemin pour d'abord sortir cette part d'humanité, parce que moi, je ne crois pas aux monstres, hein, comme je pense beaucoup d'avocats. Je crois à des histoires d'êtres humains qui ont plus ou moins dégénéré pour des bonnes raisons, des mauvaises raisons, etc. Et donc, je pense que ce regard-là, c'est un regard qui m'intéresse beaucoup, c'est un regard de diplomatie, c'est un regard de plein de choses. Il y a plein de métiers, finalement, qui interviennent là-dedans, où se mettre à la place des autres est important. Le cardinal Barbarin aurait pu le faire. C'est écrit dans l'évangile, hein, de temps en temps aussi, de se mettre à la place des autres.
Et quelque part, vous êtes un petit peu avocate à votre façon aussi, quand vous plaidez pour certaines causes, comme par exemple la cause des femmes, pas de toutes les femmes, mais de certaines femmes.
Je me permets de convoquer les quelques muses que je taquine. J'en profiterai pour évoquer les éternelles pas féminines. Les grosses, les moches mal fagotées, qu'on voit pas dans les magazines, boulets des canons de la beauté, les éternelles pas féminines. Je veux chanter les tartes, les exclus du mystère, les rayés de la carte, qu'elles lisent à l'envers. Je veux chanter ces filles, oublier des fantasmes et des talons aiguilles, mais jamais des sarcasmes, les sauvages et les frustes qui ne parlent qu'en jurons, et celles qui font juste comme les hommes font. Ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin. Celles qui ne sont ni belles ni bonnes, celles qui mettent jamais de ballerines, celles qui viennent pas quand on les sonne, les éternelles pas féminines. Les mal baisées, les pas baisables, les bonnes sœurs et autres gouines, sont-elles femmes moins véritables, les éternelles pas féminines?
Oh, qu'elle soit louée sur le temps des commères, dans la langue salée, qu'on paraît aux poissonnières. Oh, gloire à toutes celles qui conduisent le bal, qui font mal la vaisselle et qui rasent pas leurs poils. À celles qui se foutent du bonheur d'être mère et qui prennent la route d'une vie singulière. Ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin. Madame. Il ne vous aura pas échappé dans le portrait que je dessine qu'un peu de moi s'y est glissé en éternelle pas féminine. Depuis toujours en pantalon, le doigt souvent dans la narine, car je suis sans contrefaçon une éternelle pas féminine, car je suis sans contrefaçon une éternelle pas féminine.
Madame, sur le dernier album de Juliette, j'aime pas la chanson.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Juliette, cette chanson, elle est encore un peu avant-gardiste, même pour l'époque, même pour l'après-MeToo, là, ouais, qu'on est en train de vivre, non ?
Oui, il y a des choses qui changent pas beaucoup. C'est rigolo parce qu'en ce moment cette chanson, quand je la chante sur scène, je la dédie à Yann Moix. Alors non, mais en fait très sérieusement en plus, parce que du coup, en fait, on est sur un débat. Yann Moix, il aime qui il aime, on s'en fout un peu. Il fait bien comme il veut, mais d'un seul coup, on commence à se dire, mais au fait, qu'est-ce que c'est ? À partir de quand je dis ça sur scène ? À partir de quand peut-on parler de femme ? Et jusqu'à quand ? Et c'est un débat qui n'y a pas dans un autre sens. On dit pas on est un homme tant qu'on est baisable, quoi, en fait, en réalité. Et il y a ça quand même qui traîne toujours sur les femmes. Et cette chanson, elle est là pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Virginie Despentes, je vous écris de chez les mal baisés. Et d'ailleurs, c'est clairement mal baisé, pas baisable, bonne sœur et autre gouine. C'est une dédicace lointaine, mais tout à fait sincère et sérieuse à Virginie Despentes. On continue de se demander, de se dire qu'une femme, eh ben, elle doit être féminine, que c'est ça, une femme. Et alors, les autres qui ne le sont pas, sont donc pas des femmes. On espère appartenir à une espèce animale, quand même, quelque chose.
Juliette, vous n'avez jamais caché que vous aimiez les femmes. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que ça reste compliqué dans la France de 2019, par exemple, pour deux femmes de se tenir par la main
apparemment,
dans la
rue? Oui, vous avez des...
Il y a eu une agression à Lyon, le week-end dernier.
Des agressions, au contraire. J'ai même presque l'impression que c'est plus compliqué, comme si le fait d'avoir obtenu des droits civils plutôt égalitaires ces dernières années, par exemple, comme le mariage pour tous, et que c'est pas terminé. Je veux dire, la PMA est dans les tuyaux en ce moment. On va peut-être finir par en parler sérieusement. Que cette avancée des droits politiquement installés est confrontée à une régression morale de nos concitoyens. Il y a un truc qui va pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on en parle beaucoup et qu'on fait beaucoup de publicité à ça sur les ondes, en disant en laissant parler des gens d'ailleurs qui s'expriment un petit peu beaucoup et un petit peu fort, toujours dans le même sens? On a assez peu entendu des enfants d'homosexuels, par exemple. Parce que figurez-vous que des enfants d'homosexuels, de couples homosexuels, il y en a déjà. On n'a pas attendu ni la PMA, ni machin. Et on ne les entend pas parler, ces gens-là. Jamais. On entend quelques personnes sûres de leurs convictions, la plupart du temps religieuses, exprimer que les enfants vont être horriblement traumatisés. Mais non. Il y a un moment, c'est ça qui me fait penser aussi que la mentalité a régressé aussi, parce qu'on fait beaucoup de publicité aux gens qui font régresser les mentalités. Voilà.
Eh ben, nous de faire attention, nous les journalistes. Juliette, on va parler un tout petit peu de votre parcours quand même. Vous êtes née à Paris, en 62, on peut le dire, vous avez 56 ans.
Les... Ah oui, c'est ça.
Oui. Vous avez vécu les premières années à Paris, puis après vous êtes parti à Toulouse où votre père, musicien, avait rejoint l'orchestre du Capitole.
Absolument.
Saxalto, clarinettiste aussi. Vous, il paraît que c'est votre grand-mère, institutrice, qui a eu l'idée, qui a suggéré qu'on vous mette au piano. C'est vrai ça ou c'est la légende?
Non, c'est un peu vrai parce qu'en fait, déjà elle-même, quand elle a, avec ses propres enfants, on fait de la musique, elle-même quand elle était petite, bien que ayant été élevée quasiment par une femme seule, sa mère, donc mon arrière-grand-mère, a été veuve très jeune, et donc a élevé ses enfants quasi toute seule, on peut le dire, et quand même leur a donné cette éducation complète, entre guillemets, avec effectivement le goût de la littérature, le goût de l'art et le goût de la musique. Et ils ont tous fait des instruments. Ma grand-mère jouait du piano, et pour elle, ça faisait partie des choses qu'on enseignait aux enfants. Il fallait faire de la musique.
C'était une bonne idée.
Oui, moi je trouve aussi.
Voilà. Donc il y a eu après le bac un petit tour en fac, mais surtout vous avez commencé la musique tout de suite jouant dans les boîtes,
en jouant dans des piano-bars, à Toulouse, quand j'étais ma première année de fac en fait, absolument, ça a commencé comme ça. Et puis effectivement, c'est le piano-bar qui a gagné quoi.
Après, il y a eu l'envol avec le Printemps de Bourges, dans les années 85-86, c'est bien ça?
Alors, le vrai envol, c'est même 89 en fait, en réalité. Mais j'ai un petit peu appris mon métier entre-temps.
Voilà, il y a eu depuis 30 ans qui sont passés, une quinzaine d'albums, des distinctions, un public fidèle. La reconnaissance des médias, peut-être pas toujours à la hauteur de ce qui aurait pu se faire, mais quand même... Enfin, ici,
la maison de la radio est ma seconde maison, voilà. Vous savez bien.
Voilà. Où vous avez d'ailleurs fait de la radio, Juliette.
Oui, également.
Vous l'avez signalé tout à l'heure. Et puis là, j'en profite puisque je peux signaler que c'est nos cousins de France Musique qui s'apprêtent à diffuser à partir de dimanche dans Tour de Chant de Martin Penney plusieurs émissions.
Absolument. On a enregistré ça et je me suis amusée comme une folle parce que on a évoqué justement l'interprétation des chansons avec Martin et il y avait un piano. Et donc je suis revenue avec ma vieille mémoire à ressortir des trucs que j'avais pas. Donc fais-moi mal Johnny.
Voilà, c'est ça, il paraît que c'est prévu. Il y a du Bobby Lapointe, enfin des tas de trucs festifs.
Oui, des trucs que je me suis sorti de la mémoire, mais vraiment que j'avais pas chanté depuis 1000 ans, quoi.
Voilà. Et ben on va écouter justement, je sais pas si c'est prévu chez France Musique, une chanson festive, un peu ancienne. Tout est bon dans le cochon.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson.
C'est bon.
Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est
qui est bon, c'est le cochon,
c'est bon.
En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, driette du manche. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin.
C'est bien.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon,
la, la, la,
le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. 2, 3, 1, 2. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
C'est bon.
C'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre polisson.
C'est bon.
Qui c'est qui est bon, c'est le cochon. C'est bon.
Tout est bon dans le cochon, Juliette. Ça vieillit pas encore que l'heure. Les véganes, hein, là, c'est plus tellement dans la tendance du moment. Mais bon, allez, vous la chantez encore celle-là ?
Non,
c'est fini.
Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Oui, voilà, mais c'est une chanson qui était faite pour un album qui s'appelait Import-Export. Je vous laisse comprendre comment on écrivait Import-Export. Oui. Et qui était un disque d'un copain qui était collectionneur de cochons à Toulouse et qui s'est payé comme ça avec ses copains artistes un album entier de chansons à la gloire du cochon. un truc de crétin, quoi. De crétin de bistrot, d'ailleurs, faut bien le dire.
Vous reprenez l'accent du sud-ouest, là, quand vous parlez par moment. Juliette, comme vous avez commencé à chanter dans la rue, dans les piano-bars, je suis sûre que vous connaissez l'importance des bistrots. Alors, ce qui suit va forcément vous intéresser, puisqu'on en arrive aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir.
La France comptait 200 000 bistrots en 1960. Il n'y en a plus que 35 000 aujourd'hui. 75% des communes n'ont plus un seul café à la campagne. C'est encore plus et c'est un vrai souci en termes de convivialité et de lien social, surtout quand les services publics, eux aussi, se carapatent. Alors, certains imaginent des solutions. C'est le cas de cet ex-éducateur, aujourd'hui brocanteur, que vous avez rencontré près de Bourges, dans le Cher. Qu'a-t-il imaginé, Sandrine ?
Un bistrot roulant, un vieux combi transformé en café du village. C'est pas bête, plutôt que d'ouvrir une affaire dans une seule commune en laissant les autres finalement se débrouiller toutes seules. Sébastien s'est lancé dans un concept de troquet itinérant qui, tous les soirs, change de petit village et je peux vous dire qu'il fait des heureux.
Et pour cause, vous avez testé pour nous ce bistrot pas banal, baptisé C'est l'occasion. Il s'est garé lundi soir à l'heure de l'apéro, comme par hasard, à Neuvy-de-Clocher. C'est un petit bourg de 300 âmes, près de Bourges, qui n'a plus de bistrot depuis plusieurs années.
Quand certains empoignent la manivelle pour lever le rideau, Sébastien, lui, serre le frein à main.
Ah ouais, bah oui, il faut tout préparer. Hein. Faut monter la tonnelle et puis sortir les tables.
Ouais, je vous laisse faire.
Ah oui, une petite table de couleur.
Voilà.
Combien de temps environ, tout compris, pour installer ?
Waouh, 15-20 minutes.
Oh pardon.
C'est pas grave.
Sébastien a ouvert l'occasion en novembre. La disparition des petits cafés, ça le rend malade.
L'histoire de la France, c'était les bistrots. Hein. Tout en train de fermer, tout en train de mourir partout. Quand j'étais gamin, j'étais d'un village, il y avait 17 bars. Maintenant, il n'en reste plus qu'un. Là, dans cette petite commune de Neuvy-des-Deux-Clochers, il n'y a plus rien du tout. Et même dans tous les alentours, tous les petits villages, maximum, si on trouve un petit troquet, c'est le grand max.
C'est vrai qu'on passe là, on a envie de prendre un café, c'est difficile.
Ah bah, c'est très dur. Il n'y a plus rien. Voilà la bête.
Le comptoir.
Waouh. Ça suffit largement pour faire un bon bar, quoi.
C'est quoi un bon bar ?
C'est la vie d'un village.
Pour vous, le bistrot, c'est la vie ?
Ouais. J'ai eu des exemples des gens qui habitent dans le même village depuis des années. Ils se sont rencontrés pourquoi ? Parce que j'ai mis un bar.
C'est quoi ça ?
Distributeur à sucette. Je l'ai fait avec des cassettes audio.
C'est génial.
C'est comme mes plats.
Ah oui, des vieux vinyles.
Voilà, on les passe au four et ça fait un plat pour mettre des chips et cacahuètes aux clients.
C'est sympa ça.
Le vin blanc.
Bien frais ?
Ouais, bah ouais.
Combien de communes vous faites ?
7. Là, Madame le maire.
Où ?
Là, Madame le maire.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, vous.
Ça va.
Alors, c'est vous qui l'avez appelé ?
Oui. Je l'ai contacté sur Facebook. J'ai beaucoup d'administrés qui me font remonter que le café, ça manque. Voilà. Boire un coup comme ça, discuter, ça n'existe plus.
Vous-même, vous le regrettez ?
Ah ben oui. Ah oui, je suis déjà venue boire un coup la semaine dernière avec mon adjointe. Ça me fait plaisir de faire fonctionner ce bar-truck.
Vous avez dit quoi ?
Bar-truck. Je trouve l'idée superbe. Je vais vous inviter à boire un coup.
T'es morte ?
Très bien.
La clientèle de l'occasion, tout type, tout âge.
50, 60, 30 ans, j'ai des jeunes de 20, enfin j'ai vraiment tout type d'âge. Mon premier client ici, c'est un petit gamin qui jouait là, qui est venu m'acheter un iced tea. C'était génial.
Tiens, justement, les voilà.
Un rosé, monsieur ?
Ça fait du bien, un petit bistrot ici ?
Ah oui, on est bien, mais il manque du chauffage.
À la campagne, un bistrot qui ferme dans un village, le village, il devient quoi ?
Ben, il est mort. Tu vois plus personne. Hein. Avant, tu voyais les anciens et tout. Maintenant, c'est vrai que c'est mort. Hein. C'est bête. Non.
C'est bête ou c'est triste ?
Ben, c'est bête et puis c'est triste. Hein.
Bonjour.
Ça va, Thie ?
Ça va
bien ? Ouais. Bonjour. France Inter, votre prénom ?
Gilles.
Vous trouvez ça comment ? C'est un bistrot ambulant.
L'idée, elle est bien. Moi, j'ai vécu à Vogue, puis après, j'étais en Corrèze, du coup, c'était encore des plus petits villages. Et ben, le soir, tu t'ennuyais chez toi, t'allais dans les bistrots, t'avais toujours un vieux ou deux qui jouaient aux cartes. Il manquait toujours un gars, allez, hop, on faisait une partie de cartes. Les anciens, ouais, non mais voilà. Savoir ce qui se passait dans les villages, c'était les informations, c'était le petit journal, t'allais dans les bistrots. Voilà, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien du tout.
De Grimm, une nef ?
Bonjour madame.
Bonjour. Un des clients les plus fidèles.
Merci bien. Je l'ai connu au début qu'il s'est installé.
En général, vous le suivez comme ça dans les communes où il est ?
Mais c'est ça ? Non mais bien sûr. C'est tellement convivial, on passe vraiment un bon moment, donc on se suit. Vous voyez, là on arrive, on se salue, alors que je connais pas du tout le monsieur pourtant. Eh, pas du tout. Personne.
C'est quoi ton prénom?
Alexis.
Tu bois quoi?
Eh ben, une Grim, s'il te plaît.
Tu me donnes des sous.
C'est génial parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un vrai comptoir et un vrai bistrot.
Oui. On est à la fois dehors, mais tellement que c'est chaleureux, ben, on a l'impression d'être à l'intérieur.
Dorian est tatoueuse dans la ville d'à côté.
J'ai aussi trouvé des clients. J'ai fait un Mickey sur une personne de 71 ans. On a parlé de mon métier et il m'a dit mon premier tatouage, j'aurais qu'il me le fasse.
Pour vous, ça sert à ça aussi le bistrot?
Ouais.
Je suis même pas rentré dedans, je vais venir quand même voir à l'intérieur. Ah ouais, de l'autre côté, c'est assez marrant.
Ouais, c'est cool. Pas très grand, mais moi, pour moi, ça me suffit. Il y a tout.
Alors, il y a trois rosés. Hein.
Alors santé à la vôtre.
Eh, faudrait que tu demandes à la commune qu'ils te mettent une benne à verre, là.
Un grand merci pour ce reportage, Sandrine.
C'était un plaisir.
Oui, mais ça, je pense que ça n'a pas été trop compliqué à faire. Toutes les infos sur la page de l'émission. Juliette, vous qui aimez les troisièmes mi-temps hein, et les bistrots en général.
Bah écoutez, ça donne envie en tout cas. Hein. En plus, là, le beau temps revient, les beaux jours reviennent, ça donne envie. Et puis effectivement, je pense qu'il a raison. Et puis c'est intergénérationnel. Et puis il y a toujours besoin d'un quatrième à la belote. Et puis voilà, quoi, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sinon regretter qu'effectivement ça
c'est
la désertification,
c'est une catastrophe.
Bien sûr, c'est une catastrophe. J'habite dans, le reste du temps, j'habite comme ça dans un village pas très grand et effectivement depuis quelques années, on s'aperçoit que c'est catastrophique partout, quoi.
Près de Toulouse, c'est là que vous allez vous reposer, Juliette, après cette tournée.
Oui.
Grandes vacances.
Ouais.
Quoi au programme?
Ben, grande vacances.
Jeux vidéo ou...
Oui, entre autres choses. Et puis, grandes vacances, ça va être le beau temps. On va se mettre dehors et puis on va voir ce qui se passe, quoi. On va faire des barbecues, on va boire des coups. Enfin, voilà. Enfin, le bistrot à la maison.
Et écrire autre chose que des chansons, Juliette, ça vous tente pas? Je sais que vous avez publié il y a quelques années un recueil de nouvelles, La Valse.
Ça peut arriver. Après, je sais pas. J'ai pas encore dessiné tous les projets. Voilà, il faut que j'arrête là pour l'instant. Et je vais me poser et puis je vais réfléchir à tout ça. Pour l'instant, c'est le programme, c'est stop.
Parce qu'au début, il y a eu aussi un livre sur vos débuts, Mensonges et autres confidences, oui, chez Textuel, il y a quelques années. Quand on a une plume comme la vôtre.
Oui, mais bah, j'ai pas.
Quand on a l'amour de la littérature et du mot juste, il y a pas.
Oui,
ça vous titille pas cette.
Non, j'ai pas dit mon dernier mot, mais voilà, pour l'instant, je sais pas. Sans doute que oui, je ferai ça à un moment donné, mais il faudrait que je sois éposé et surtout que j'ai une idée qui tienne la route.
Sinon, vous êtes toujours présidente du fonds d'aide aux jeux vidéo du Centre National du Cinéma et de l'Image.
Absolument.
Toujours aussi passionnée.
Toujours aussi passionnée, toujours aussi passionnant. Et ensuite, avec des constatations très intéressantes, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi de ce côté-là. Je suis contente d'être à ma troisième année de mandat. Donc, ça veut dire que j'ai vu aussi les choses évoluer, y compris dans le regard que les médias, par exemple, peuvent porter sur les jeux vidéo. Le fait que ce soit devenu...
C'est-à-dire que c'était un regard critique, vous trouvez ?
Oui, il y a eu souvent, pendant assez longtemps, une image un peu apportée comme ça de comment dirais-je de d'entreprise de perversion de la jeunesse, alors que en fait maintenant tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est une forme d'expression intéressante et artistique et qu'il y a plein de choses qui s'y passent.
Merci beaucoup Juliette d'être venue nous voir ce soir. Je redis que vous serez mardi à Vélizy-Villacoublay et surtout le 3 avril à la salle Pleyel. Oui. Voilà, donc encore quelques dates et puis pour ceux qui ne pourront pas vous voir en concert, évidemment il y a votre dernier disque J'aime pas la chanson chez Polydor, je vais y arriver. Le téléphone sonne, sera consacré au sommeil. Appelez-nous au 01 45 24 7000.